Bonjour à toutes et à tous. Suite à la publication de son dernier livre intitulé « Judéophobie, la dernière vague » aux éditions Fayard, le philosophe Pierre-André Taguieff a accordé un entretien à l'Express en mai dernier où il décortique les théories du complot et de la conspiration. Je vous en livre ici quelques extraits. À la question de savoir pourquoi les théories conspiratives séduisent autant de monde aujourd'hui, il répond, je cite, « que la passion du dévoilement et de la dénonciation des puissances occultes est commune aux esprits complotistes et aux individus sensibles à cette forme moderne et contemporaine de démagogie qu'on nomme, à tort ou à raison, le populisme. Je le définis comme un style politique consistant d'une part en un appel au peuple contre les élites plus ou moins criminalisées, et d'autre part en une sacralisation du peuple, paré de toutes les vertus, censé être trompé en permanence par les élites cyniques et corrompues. Un peuple intrinsèquement bon, victime innocente de ceux d'en haut. Cette vision d'une société duale et conflictuelle implique une centration sur la souveraineté populaire et une indifférence au pluralisme ainsi qu'à l'état de droit. D'où cette caractérisation paradoxale, l'idéal politique du populisme est un hyperdémocratisme autoritaire. Car si le peuple a toujours raison, pour ceux qui parlent ou gouvernent en son nom, toute opposition devient criminelle. La pensée complotiste se fonde sur un postulat. Tout ce qui arrive a été voulu par des puissances invisibles. Elle consiste avant tout à attribuer des intentions conscientes et des intérêts réels aux sujets supposés conspirer et qui auraient atteint leurs objectifs. Et ce, afin d'expliquer certains événements troublants ou traumatisants, lesquels peuvent être inventés de toutes pièces. À l'ordinaire, ils sont simplement fantasmés sur la base des fake news, diffusés sur Internet, qui tiennent leur séduction de s'opposer justement aux informations données par les médias dits officiels. Dans tous les cas, il s'agit de répondre à la question « à qui profite le crime ?» en désignant des coupables dont le profil est conforme à des attentes idéologiques. Si les récits complotistes séduisent autant aujourd'hui, c'est qu'ils répondent à un besoin psychologique, d'ordre et d'intelligibilité qui ne cesse d'augmenter dans un monde dont la marche est indéchiffrage et anxiogène. Les passions motrices de ceux qui croient à des complots fictifs sont d'une part l'insatisfaction face aux explications données des événements et d'autre part la peur, laquelle peut se transformer en angoisse face à des signes annonciateurs d'une catastrophe, d'où l'effet pervers des pseudo-explications complotistes qui, censées justement conjurer les peurs, leur confèrent un horizon apocalyptique. Pour comprendre le succès des croyances complotistes, il faut supposer qu'elles répondent à une demande de sens et de cohérence. Pour les adeptes de la théorie du complot, l'ennemi invisible et diabolique explique tous les malheurs des humains et en même temps réenchante le monde, serait-ce en le peuplant de démons. Il est difficile de dissiper des illusions lorsqu'elles fonctionnent comme des nourritures psychiques. Les esprits complotistes tiennent à leurs croyances fausses. Pierre-André Taguieff explique ensuite qu'Israël focalise à lui seul tout un imaginaire conspiratif. Je cite encore. Les noms Israël et sioniste tendent depuis un demi-siècle à remplacer le nom juif. Il faut remonter aux origines de la judéophobie pour comprendre pourquoi Israël est perçu comme la tête d'une conspiration internationale. Quelques repères historiques sont ici nécessaires. Le motif du complot juif contre la société chrétienne se constitue historiquement autour de l'accusation d'empoisonnement des fontaines et des puits qui surgit en 1321 en Aquitaine sous la forme de la fiction d'un complot judéo-lépreux. Durant l'hiver 1321, en effet, cette accusation de complot valut aux lépreux d'être massacrés avec l'aval de Philippe V le Long, roi de France. La chronique du monastère de Sainte-Catherine rapporte les faits en caractérisant, sur la base des aveux des lépreux, les deux thèmes d'accusation visant ces derniers. S'ils ont comploté, c'est à la fois pour tuer les non-lépreux et pour dominer le monde. La thèse du complot maçonnique ou maçonnico-philosophique, pour expliquer la Révolution française, est-elle une invention de l'abbé Lefranc en 1791-92, reprise et développée par l'abbé Baruel en 1997 jusqu'en 1799 dans ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Sa thèse centrale est que la Révolution française a été préparée par une conspiration associant les encyclopédistes, les francs-maçons, et les illuminés de Bavière, en supposant que les francs-maçons, héritiers des Templiers, ont été les instruments inconscients du complot ourdi par les Templiers. D'où, finalement, la légende complotiste qui ne cesse de refaire surface, qui est celle des Illuminati. C'est la fusion du complot juif et du complot maçonnique qui alimente l'imaginaire conspirationniste au cours du XIXe siècle. Le complot juif se transforme alors en un complot international, soit sur le mode d'une refonte du complot maçonnique dénoncé par les théoriciens contre-révolutionnaires, d'où l'invention du complot judéo-maçonnique, soit aussi dans les milieux socialistes et révolutionnaires, sur le mode du complot plutocratique ou capitaliste illustré par la famille Rothschild, ce qui donnera le complot judéo-capitaliste. Dès l'époque 1918-1919, surgit une troisième figure fondée sur l'assimilation polémique des bolcheviques aux juifs, celle du complot judéo-bolchevique. On a donc trois sortes de complots, le judéo-maçonnique, le judéo-capitaliste et le judéo-bolchevique. Au XXe siècle, la vision du grand complot juif mondial trouve son principal vecteur dans le célèbre faux anti-juif connu sous le titre de « Protocole des sages de Sion », document publié pour la première fois en Russie fin août début septembre 1903 sous le titre « Programme de la conquête du monde par les Juifs ». Sous-titre « Protocole des séances de l'Alliance mondiale des francs-maçons et des sages de Sion ». La propagande nazie a utilisé massivement le faux jusqu'en 1939. Après la création de l'État d'Israël, les protocoles ont entamé une nouvelle carrière dans le monde arabo-musulman, notamment en Égypte sous le règne de Nasser. L'objectif alors était de diaboliser l'État hébreu, dénoncé comme la direction centrale du complot sioniste mondial. En fait, l'israélophobie n'est que la pointe visible de l'antisionisme qui, dans ses formes radicales, a pour objectif la destruction de l'État juif. La dénonciation du complot sioniste mondial est le produit d'un héritage de l'antisémitisme européen qui, depuis les années 1920, s'est peu à peu mondialisé avant de s'islamiser de façon croissante à partir des années 50. Les victimes imaginaires du paléo-complot juif étaient les chrétiens. Celles du grand complot sioniste sont d'abord et avant tout les Palestiniens, les Arabes, et plus largement les musulmans. On constate que la plupart des accusations stéréotypées contre les juifs sont projetées sur Israël. Haine du genre humain, tendance criminelle, volonté de dominer le monde, propension à conspirer, à mentir et à manipuler l'opinion, racisme ou apartheid et impérialisme. Pour conclure, Taguieff revient sur l'idée selon laquelle les sages de Sion dominent le monde aux yeux des adeptes de la conspiration. Publié en Russie d'abord sous plusieurs versions, en 1903, 1905 et 1906, les protocoles des sages de Sion depuis le début des années 20, lorsqu'ils commencent à être traduits dans la plupart des langues européennes, fonctionnent comme un stock de stéréotypes anti-juifs. Il faut distinguer la circulation internationale du célèbre faux et les usages de ces formes dérivées adaptées à différents contextes. Les propagandistes diffusent des thèmes d'accusation, des croyances et des représentations anti-juifs qu'ils empruntent parfois sans le savoir au protocole, qui dévoilent l'existence d'un grand complot judéo-maçonnique ou sioniste international visant à conquérir le monde par les moyens les plus divers afin de dominer l'humanité non-juive. Dans les pays arabo-musulmans, les prêches du vendredi se réfèrent souvent d'ailleurs au protocole ou s'en inspire pour dénoncer les méfaits des juifs qui dirigent l'Amérique et donc le monde, puisque l'Amérique dirige le monde selon eux, et orchestre enfin la désinformation au niveau mondial. En France, l'agitateur anti-juif Alain Soral ne cesse de faire des variations sur les thèmes conspirationnistes dérivés du célèbre faux. Lui, ennemi déclaré de l'histoire officielle diffusée par l'Empire, Soral lui oppose sa propre vision du monde, centrée sur la dénonciation de la domination juive, la domination de cette communauté juive organisée internationale qui règne aujourd'hui sur le monde occidental. Expression qu'il utilise pour exprimer la montée du capitalisme financier. D'ailleurs, il s'écria le 14 mai 2018 devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris où il était jugé, je cite, « Le judaïsme contemporain, judaïsme talmudo-sioniste, et bien une religion de haine, belliqueuse et raciste. L'État d'Israël en est la démonstration, la réalisation pratique. Dénonçons ces fanatiques racistes et dominateurs. Assez de la tyrannie de la minorité, de cette minorité qui, pour continuer à régner, pousse à la haine toutes les minorités derrière elle, féministes, jeunes, gays, immigrés, conduisant ce pays au chaos. En fait, on voit que Soral semble vraiment croire au message diffusé par les protocoles. Pour lui, les sages de Sion dominent le monde. Mais Soral n'est que l'un des innombrables propagateurs professionnels sur Internet de la vision complotiste véhiculée par les protocoles. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et à la semaine prochaine.